Bonus.
Trax.
Précédemment dans le cadran pop.
Ouais. Vive la Moselle, vive Metz.
Et alors que J.J. Abrams devait seulement produire le film, il va quand même finalement accepter de le réaliser. Et le film est sorti donc le 6 avril 2009 aux États-Unis et pile un mois après en France.
Et les muscles de Thor, qui en 5 minutes réussit à vendre son personnage de manière hallucinante.
Non, les muscles de Thor, c'est vrai que c'est important dans cette scène.
C'est pas possible d'un point de vue hollywoodien.
D'exemples dans l'histoire, d'ascensions fulgurantes qui n'ont duré, qui n'ont duré. Si tu as des empereurs romains ou byzantins qui ont
ou
qui
des
ont,
premiers ministres
qui sont restés
peux,
très peu.
Tu
temps.
Peux arriver quatrième aux élections et être premier ministre. Tu réalises pas le truc. Tu réalises pas. Putain, c'est moi qui fais cette blague.
La vraie question au final, c'est est-ce que Star Trek a vraiment sa place au cinéma ou est-ce que ça doit pas juste rester une série télé?
Bah moi, c'est ambivalent parce que c'est un film que j'aime toujours beaucoup, mais pas comme certains épisodes de Star Trek.
Et regardez la série télé qui est excellente. Alors, ça peut mettre mal à l'aise parce que quand même, on a un personnage très fort, mais...
Je sais pas vous, moi j'ai un flashback de ce matin au Airbnb où Guigui a dit « Le fanzine, c'est les rocos, comme ça on les fait pas en podcast. »
Mais toi, Romain, Kelvin Romain, est-ce que du coup ça t'a donné envie de regarder Star Trek ou pas du tout?
Non.
On parle pas de l'Uchronie, les univers parallèles, le multiverse. On n'en parle pas ici pour débattre et s'arracher les cheveux sur.
On débattra dans un univers parallèle.
Non, mais on en parlera demain. On en parlera dans le podcast de demain, puisqu'on va évoquer l'univers étendu. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour le coup.
Et maintenant, la conclusion.
Rebonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop. Et exceptionnellement, aujourd'hui nous sommes en direct et en présentiel chez What the Food rue Gambetta à Metz, en Moselle, pour cette suite de notre podcast sur le film Star Trek de 2009, où nous allons parler de Roberto Orci, d'Alex Kurtzman, les scénaristes, et de leur comic book Star Trek Countdown, qui en fut en quelque sorte le préquel du film. Et pour m'accompagner dans ce podcast, je ne serai bien sûr pas tout seul, mais avec un équipage d'élite, notre lieutenant commandeur Bajoran Marina.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guigui.
Bonjour. Le Prime Romain.
Bonjour à tous et à toutes.
Le Miroir Romain.
Bonjour tout le monde.
Manu et Kelvin Romain sont retournés dans leur ligne temporelle, mais bien sûr, les membres de notre Discord sont là et on va les entendre d'ailleurs tout à l'heure et même peut-être tout de suite. Ouais.
La magie du montage.
Alors, en deux mots, moi, c'est une question que je vais poser tout de suite même au public. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont lu la bande dessinée? Levez la main.
Laquelle?
Trois personnes. Bah, Star Trek Countdown.
Ah.
Celle dont on parle. Ok. Et est-ce que vous l'avez aimé? Alors, donc, une personne lève la main. Et sinon, on pourra poser quelques questions quand même en fin de podcast. On pourra faire même un tour de table avec le micro de Romain où on pourra vous demander ce que vous avez pensé du film de 2009, de tout ce qu'on aura pu dire comme bêtises depuis hier.
Et il y en a.
Et puis si vous avez des commentaires et des remarques à faire par-dessus, quoi. Donc on va commencer immédiatement par parler des scénaristes. Et là, c'est Romain Nigita qui va nous en parler. Donc les scénaristes du film qui ont un petit peu aidé ou en tout cas impulsé la BD dont on va parler.
En effet, Alex Kurtzman et Roberto Orci ont pondu le synopsis de ce comics, même si après c'est pas eux qui ont vraiment écrit le screenplay en tant que tel. Alors Orci et Kurtzman, ça fait partie d'un peu de cette tradition à la télé américaine des tandems de scénaristes. C'est un vrai tandem parce qu'à la place de END ou de EET, il y a vraiment le petit signe qui prouve qu'ils travaillent vraiment ensemble. Ils sont connus en fait dans un cours de cinéma avant même de débuter leur carrière de manière professionnelle. Ils se sont rendus compte, je savais pas, c'est Guigui qui me l'a marqué sur l'affiche, merci Guigui, qu'en fait ils s'étaient rapprochés parce qu'ils aimaient beaucoup tous les deux le premier film de Steven Soderbergh, Sex, Mensonge et Vidéo, qui avait quand même eu la Palme d'Or à Cannes, et aussi par le fait que Kurtzman avait vécu au Mexique, qui est aussi l'un des pays d'origine de Roberto Orci. Comme on l'a dit hier, ils ont surtout commencé sur les productions de Sam Raimi, les séries Hercule, Xena et Jack de tous les coups, faut pas l'oublier, qui était complètement oublié mais qui était assez génial dans son genre. Et c'est à partir de là qu'ils ont été repérés par Abrams pour constituer son équipe de scénaristes sur Alias. Et bah, c'est à partir de cette première production Bad Robot sur laquelle ils travaillent que ils montent en grade. Ils vont développer d'autres séries avec J.J. Abrams, évidemment Fringe. Ils vont quand même faire de quelques scénarios hors Abrahams. Je l'avais oublié celui-là. Ils ont pondu le scénario de The Island de Michael Bay.
Tout le monde s'en souvient.
Oui. Mais qui est pas si. Toi, tu m'as marqué, je balance, hein, le premier navet cinématographique d'Orsay et Kurtzman. Bah, là, c'est moi qui vais le défendre, tout c'est comme toi, tu défends genre les extraterrestres. C'est pas le plus mauvais film de Michael Bay. C'est pas son meilleur, mais c'est pas son plus mauvais film.
Mais dit comme ça, oui, c'est sûr.
Et d'ailleurs, bah, ils vont continuer à bosser avec Michael Bay, parce que c'est eux qui vont écrire le scénario du premier Transformers, qui là aussi est loin d'être le plus mauvais Transformers, et loin d'être le plus mauvais film de Michael Bay. Le premier, c'est assez regardable. Le deuxième va être pas mal réécrit par Aaron Kruger, en plus au moment de la grève des scénaristes de 2007-2008. Et après, c'est eux, ils vont lâcher l'affaire sur cette franchise-là.
Et puis surtout, le seul argument valable, c'est que ça a rapporté plein de millions de dollars.
Ouais. Et même 2 milliards.
Ouais, 2 milliards même. Donc ça les place comme les scénaristes rentables du moment. Quoi.
Complètement. D'ailleurs, là, tu l'as pas noté, ils ont écrit un vrai navet qui est le film de John Favreau, Cowboy et Envahisseur, avec Harrison Ford et Daniel Craig.
Je l'ai vu au cinéma.
Et là, pour de bon, c'était un beau ratage. Heureusement, bah, ils vont se reprendre toujours grâce à J.J. Abrams. Ils vont écrire avec lui donc Mission Impossible 3. Et donc, évidemment, vu les succès qu'il rapporte pour Paramount, ils vont se retrouver en première ligne pour faire ce Star Trek 2009 qu'on a vu hier. Et notamment parce que Roberto Orsi est un fondu malade de la franchise Star Trek, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque d'Alex Kurtzman. Mais ce qui finalement fait un bon équilibre entre un qui connaît et l'autre qui connaît pas du tout. D'ailleurs, si vous rejetez un œil au bonus du DVD, on voit lors de la prod que Orsi n'arrête pas de parler et que Kurtzman a sur les genoux la Star Trek Encyclopédia. Pour voir de quoi il parle. Évidemment, Kurtzman fait du chemin depuis, puisque bah, comme on le sait tous, il se retrouve à la tête des séries actuelles.
Et d'ailleurs, Roberto Orsi, il y a un prélude dans le comics où il parle justement d'à quel point il a été fan.
Notamment de la Next-G. Il parle beaucoup de la Next-G.
Voilà, ouais. Qu'en fait, il a attendu comme un fou tout l'été quand il y a eu le
cliffhanger Best of Both Worlds.
Ouais. Picard en locutus, ouais.
Mais ce tandem, finalement, sur Star Trek, c'est un peu le début de la fin pour Kurtzman et Orsi, même s'ils bossent évidemment sur Star Trek Beyond. Sur Star Trek Into Darkness, mais ils ne bosseront pas sur Star Trek Beyond parce qu'en fait, au départ, c'est Orsi qui devait réaliser le film du 50e anniversaire. Sauf que les quelques infos qui en sont sorties, c'est que Paramount n'était pas du tout d'accord avec la piste qu'il prenait, puisque pour Orsi, c'était le film anniversaire, donc il fallait qu'il y ait plein de références, plein de retours, plein de caméos. Paramount voulait juste un gros blockbuster qui allait parler à tout le monde, ce qui était déjà le but des deux films précédents. Donc Orsi a été éjecté, et là c'est le début un peu de la descente aux enfers pour lui. On a pu le voir se répandre en propos complotistes sur différents forums. Il a quasiment plus rien fait, hormis une série pour Robert Rodriguez qui était l'histoire d'un footballeur agent secret. Voilà, ça s'appelait El Matador.
Ça s'invente pas.
Une grosse cata. Et puis, là, très récemment, je crois qu'il y a un mois, sa femme a porté plainte contre lui quand même pour violence domestique et viol. Donc ça va vraiment pas bien pour Orsi. Donc pas du tout le même destin que Kurtzman, qui lui a développé une carrière de réalisateur ciné. Pas terrible. La momie avec Tom Cruise, c'est lui.
Ouais, ça, il a quand même enterré une franchise à peine née, quoi.
C'est ça. Bon, il y avait le studio s'y est mêlé aussi, c'est pas lui le seul fautif. Mais voilà, quand Paramount l'a appelé pour relancer la franchise Star Trek, c'est lui qui a été appelé, c'est lui derrière qui a choisi Brian Fuller pour Discovery. Ça a été un peu sa résurrection, ce qui fait que lui et sa boîte de prod ont signé avec Paramount pour plusieurs années. Ils ont développé d'autres séries en dehors de l'univers Star Trek. Et c'est notamment eux qui ont fait la série Clarice qui revient sur Clarice Starling, le personnage du Silence des Agneaux. Donc aujourd'hui, c'est ce gars qui, il y a 15 ans, ne connaissait rien Star Trek, qui se retrouve à la barre de notre franchise favorite, un peu comme Rick Berman, finalement.
Tout à fait, mais on pourrait dire que 15 ans après, finalement, il n'en connaît pas beaucoup plus, peut-être.
Je vous laisse responsable de vos propos. Non, c'est vrai, il s'était fait pas mal troller, parce que je ne sais plus à quelle occasion, dans une interview, il y a quelques années, en parlant des Klingons avec les nouveaux maquillages, il a dit « Ouais, mais de toute façon, les Klingons avec les nouveaux maquillages, on les a vus qu'à partir de Star Trek 3, évidemment, on les a vus dans le motion picture, même si ce n'était pas tout à fait le maquillage définitif, mais tout de même. » Donc, ce qui, évidemment, les fans, on aime bien des fois. Jouer les haters, donc on lui est tous tombés dessus pour ça. Mais je pense que, comme souvent, il faudra attendre quelques années pour vraiment tirer le bilan de ce qu'il a fait. Rick Berman, pareil, il était vachement conspué à une époque. Finalement, maintenant, on est tous en train de saluer le boulot qu'il a fait, même si, évidemment, c'était avec le travail de Michael Piller, Ronald Lemour, René Echevarria, Ira Stevenberg et compagnie.
Il est conspué pour d'autres raisons aussi.
Comme quoi ?
Bah, par exemple, le traitement qu'il a fait, qu'il a imposé sur Voyager, le fait, tu vois, de pas vouloir accepter la sérialisation. Bah,
c'était plus le studio que lui. L'époque n'était pas ça de toute façon. Mais ça, c'est pas le débat du jour. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où ce genre de producteur qui est à la barre d'une franchise est un peu pour nous le paratonnerre ou la personne sur qui on va diriger toutes nos critiques. Il y aura un moment où on pourra réévaluer de manière un petit peu plus apaisée tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même eux deux qui étaient à la barre du fameux comics dont on va parler. Comics qui, on va revenir dessus plus en détail, tient quand même beaucoup plus du merchandising, soyons très honnêtes, que d'une tentative de faire un univers étendu. Mais l'idée, c'est que, un peu comme on l'a vu hier dans le podcast, ça va quand même un peu tirer des lignes vers laquelle est allé l'univers, notamment avec Picard.
Juste un truc sur Orsi, pour lui, là, quand même, la traversée du désert, elle commence vraiment en 2020, parce qu'il était quand même producteur exécutif sur A Wave, Police d'État.
Ouais, mais ils ont juste écrit le pilote avec Kurtzman, c'était pas du tout les showrunners, c'était Peter.
Ouais, il était pas showrunner, mais il était quand même exécutif producteur, donc le chèque tombait quand même.
Oui, voilà, ça tombait, mais de manière active, il faisait plus rien.
Donc voilà, mais c'est vrai que depuis 2020, c'est quand même. Hollywood, c'est un monde un peu brutal, mais c'est vrai qu'avoir été tellement haut, en fait, d'avoir été tellement dans les films à milliards pour se retrouver quand même vraiment littéralement les mains vides, c'est pas si fréquent, en fait, quoi. Donc il s'est un peu auto-cancellé.
Et surtout que dans le duo, t'en as un qui décolle et l'autre qui disparaît.
C'est ça. Et ce qui est tragique, et ce qui, à mon avis, il doit le vivre assez bizarrement, c'est qu'ils étaient quatre avec Abrams, mais ils étaient trois sur Star Trek 2009, donc Lindelof, Orsi et Kurtzman. Lindelof fait la carrière qu'on lui connaît, c'est probablement celui qui a le plus de talent des trois. Hein. C'est quand même, moi, pour moi, il a atteint une autre dimension scénaristique que rien que The Leftovers. Tu peux faire The Leftovers et mourir, quoi. Ça suffit. Kurtzman se retrouve showrunner universe runner de Star Trek sans aucune. Enfin, il l'a voué lui-même avec une connaissance zéro, c'est quand même tragique. Et Orsi, qui avait une vraie passion pour l'univers, se retrouve complètement à poil. Donc, j'excuse pas ses comportements complotistes. Moi, je le suivais à l'époque. Il était à la pointe hein, sur les sujets complotistes. Mais c'est quand même. Il y a de quoi devenir aigri, quoi. C'est vraiment un échec personnel énorme, quoi.
Et sinon, on va parler déjà tout de suite du comics. Est-ce que vous l'aviez lu ? Donc, ouais, je sais que Romain, oui, et qu'il n'a pas trop aimé. Mais toi, Marina, est-ce que tu l'avais lu ?
Non. Du coup, je l'ai lu pour l'occasion. Et en fait, c'est juste du merchandising. C'est-à-dire. C'est pas un comics qui marque l'histoire, parce que pour moi, des comics peuvent marquer l'histoire. On pense à Watchmen, on pense à Mouse, on pense à.
Ouais, non, mais là, tu parles pas de la même chose.
Non, mais on peut. Alors.
La liste de Schindler.
Ouais, c'est vrai, quand même.
Non, mais on peut aussi parler d'une BD comme dont j'ai parlé hier lors de l'enregistrement du podcast, c'est Red Son. Avec ce oui. Superman. Qu'est-ce qui se serait passé si Superman avait atterri en Union soviétique et pas aux États-Unis ? Donc il y a des choses comme ça. Il y a des comics qui ont marqué l'histoire et il y a des comics qui sont juste là pour remplir les trous, pour satisfaire les fans peut-être qui veulent en savoir plus. Mais même moi qui suis une fan de la première heure, à part peut-être donner plus de profondeur au personnage d'Eric Bana, Nero qui franchement était survolé dans le film et puis il est juste là pour être le méchant, très méchant, presque à tordre sa petite moustache là, comme le font les méchants des années 30. Mais à part donner plus de profondeur, présenter sa femme, parler de ses pertes, pour moi c'est juste du feeling et ça n'a pas de... Voilà, mais est-ce que si je le relis dans 20 ans, je crierai au génie et je le comparerai à Watchmen ?
Ouais, faut pas déconner.
Après le... Entre Watchmen et Condon, il y a quelques autres comics quand même. Dans l'univers Star Trek, Star Trek a quand même une longue histoire de comics. IDW, on en parlait hier avec un membre du forum, publie encore régulièrement des comics Star Trek. Et il y a des trucs qui sont très potables, il y a des trucs qui se lisent très bien.
Surtout maintenant.
Il y a eu un Star Trek Year 5 qui a raconté la cinquième saison de... Ouais, c'est ça, cinquième saison de la série classique. Il y a eu des crossovers dans tous les sens, il y a eu des Star Trek Doctor Who, Star Trek X-Men et tout, bon, qui sont un peu anecdotiques, mais qui sont pas désagréables, avec des très jolis dessins d'un dessinateur qui s'appelle J.K. Woodward, que rien que pour les dessins, ça mérite d'être regardé. Voilà, donc il y a pas mal de... Il y a les comics de John Byrne aussi, pour les évoquer rapidement. D'ailleurs, on parle de comics, mais c'est plus des romans photos que faisait John Byrne également, et qu'il a continué à faire tard, parce que John Byrne est un énorme fan de Star Trek. Donc, il y a...
en soi, c'est pas anecdotique, le comics et le Star Trek, c'est deux médias qui ont été, enfin, c'est un média et une franchise qui ont une histoire d'amour au même titre que Star Wars et le comics. Mais là, Marina a totalement raison. On est dans du merchandising de films. Ça fait partie du package de sortie. T'achètes ça, t'achètes ton paquet de Pepsi brandé Star Trek et ton pot de popcorn, quoi. Ça dépasse pas ça, l'ambition.
Et c'est dommage parce qu'on devrait vraiment écrire des BD, des livres. Je pense toujours à Im Sadi, par exemple, de Peter David dans les bouquins. Il y a des choses qui devraient marquer l'histoire ou raconter quelque chose de différent et en même temps parler aux fans, mais pas essayer de lui soutirer juste de l'argent.
Le dernier truc que j'ajouterais, je pense qu'on va l'évoquer beaucoup plus en détail après, mais c'est que la petite arnaque sur Star Trek Condon, c'est qu'on t'a dit que c'est Orci et Kurtzman qui ont réalisé le script, qui ont réalisé le synopsis. Pourquoi on te dit ça? Pour te dire, oui, c'est quand même canon, parce que c'est quand même les mecs qui ont fait le film, qui ont fait la BD et tout. Alors tu t'achètes un peu le bordel en te disant, ouais, ok, ça va être sympa, si, en effet, ça va approfondir l'histoire. Bon, évidemment, ça n'a pas loupé. À la première occasion, ils ont redconné tout le bordel et il n'en reste rien. Bizarrement, il y a des points de détail qui font que la version Condon... Enfin, il y a des rapports entre Condon et Picard, ce qu'ils nous montreront dans Picard plus tard, mais globalement, la BD est reconnue à 99,9%. En effet, comme dit Marina, pratiquement le seul truc qu'il faudrait garder, c'est l'histoire de Nero, mais elle-même qui ne fonctionne pas complètement si tu enlèves tout le reste.
Il est principal au comics, d'ailleurs. C'est vraiment le vrai personnage principal du comics, finalement, c'est lui. Hein.
Mais il y en avait besoin, parce que dans le film, oui, à part être méchant, et avoir de très beaux tatouages et un vaisseau... impraticable. Mais il y avait rien. En fait.
Ils expliquent pourtant, les tatouages dans la BD.
Ouais. Oui, ils expliquent les tatouages. Et c'est pas une bonne idée. Le tatouage est lié au rituel, à des étapes dans la vie, et c'est très bien de l'expliquer.
Mais c'est surtout
juste cosmétique.
C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ils t'expliquent que quand il y a un deuil dans la tradition romulienne, ils se font des espèces de tatouages, ces marques, mais qui sont temporaires et qui s'effacent avec le temps, alors qu'eux, ils vont se les tatouer vraiment pour que ça s'efface jamais, en fait.
Ce qui est intéressant avec ce genre de comics, c'est que c'est un peu comme les novélisations où souvent c'est écrit avant le montage final et du coup on se retrouve avec dans le bouquin plus d'infos que dans le film parce que des fois des scènes ont été coupées et on les retrouve comme dans le bouquin, ce qui permet un peu de reboucher les trous. Et là c'est un peu ça que ce comic, c'est ça permet de reboucher les trous sur le background de l'équipage de Nero. Mais au-delà de ça, en effet, hormis le côté anecdotique, le côté tiens c'est rigolo, quand on verra Picard bien plus tard on peut raccrocher à ça, c'est pas un truc sur lequel il faut se jeter et le trouver absolument. Si vous le trouvez sur eBay à $250, non. Ça, on va pas vous faire croire ça.
Je pense que sur eBay, ça sera $1.50, mais malgré tout, je suis pas sûr que ça les vaut, quoi.
Toi, Romain, tu l'as pas aimé, du coup.
Je te dis, bon, à l'époque où je l'ai lu, je m'étais dit pourquoi pas, mais déjà, bon, tu voyais l'escroquerie dans le sens où, comme c'est une comics, ils peuvent tout se permettre, donc t'as plein de personnages qui reviennent. Il y en a qui peuvent faire sens. En effet, Picard, tu te dis que c'est devenu, à cette époque-là de Star Trek, c'est devenu une personnalité tellement importante qu'il aurait forcément quelque chose à faire dans un moment où l'univers total est en crise, la disparition probable de Romulus, etc. En plus, Picard qui avait une histoire particulière avec Romulus. Donc, la présence de Picard se justifie. Mais là, tu as Picard, tu as Worf, tu as Geordi, tu as Data. Pourquoi que eux? Pourquoi pas d'autres? Enfin, c'est toujours pareil. Tu sens vraiment le côté on va mettre un maximum de fanservice pour faire plaisir aux gens. Et puis voilà. Je me rappelle, là, je feuilletais le comics, je l'avais pas relu depuis 2009. L'apparition de Worf à la fin, mais c'est clownesque, en fait.
C'est classique, quoi. C'est très, très bateau, quoi.
Ça rappelle un peu Picard saison 3, dans ce sens-là où chaque épisode, on a le retour d'un anciens, de la Next Gen, un par un, de manière plus ou moins forcée. C'est vrai que on a Data qui revient, on nous explique en fait c'est Before, c'est bon, maintenant ça marche. Je spoil la BD, du coup c'est Geordi qui a conçu le Jellyfish Ship, donc la petite navette de Spock qu'on voit dans le film. Worf est devenu il plus tout ambassadeur comme à la fin du Space Nine, il est devenu Klingon. Général Klingon, et Picard est devenu ambassadeur de la Fédération sur Vulcain. Et par contre on sait absolument pas ce que sont devenus Crusher, Riker et Troy. Elles sont absolument pas dans l'histoire, donc il y a ce côté un peu systématique à la chaque épisode, on va en revoir un.
Ouais, mais au moins, ils ont fait, ils n'ont pas poussé le truc jusqu'à les revoir tous, tu vois. Donc, tout ce qui n'était pas utile...
Il y a passé de numéro.
Peut-être, ouais. Mais toi, du coup, tu l'avais aimé ou pas, cette BD?
Comme ce qu'on a dit précédemment, j'ai trouvé ça appréciable d'avoir chance de développement du background de Nero, mais à part ça, non, ça n'a pas grand intérêt, hormis... Voilà ce qu'on va expliquer maintenant par rapport à tout ce qu'on a vu, notamment depuis Picard saison 1, et le fait que la destruction de Romulus, maintenant, est un point important dans l'historique de la franchise. Parce que finalement, l'impact dans le film lui-même de 2009, hormis bon, le plot, l'intrigue, mais de manière géopolitique, on va dire, dans l'univers de Star Trek, on ne voit pas tellement les conséquences. Mais par contre, ça va vraiment devenir un marqueur de l'avant et de l'après dans l'univers, et de l'avant et de l'après, même dans la franchise. En gros, ce point de la destruction de Romulus, c'est avant et après Rick Berman. C'est un peu ce truc-là. Il y a avant et après Jésus-Christ, bah, il y a
PB,
avant et après Romulus.
PB et B.
C'est ça.
C'est méta, et en même temps, c'est dans l'univers.
Il y a un truc qui est décevant aussi pour une BD, qui est un art visuel, et c'est le dessin, en fait.
Oh, t'es dur.
Non, le dessin, il ne devrait pas juste être une interprétation. Non,
alors, juste, il faut se rappeler des comics de l'époque, des franchises comme Star Trek. Moi, c'est un truc que je suivais beaucoup, que ce soit même Star Trek ou même X-Files à cette époque-là. Il y avait beaucoup de comics de franchises. Ils n'ont pas la qualité qu'il y a maintenant. Parce que maintenant, les comics qui sortent actuellement, ils sont de très grande qualité, faits par une éditrice qui s'appelle Heather Amos, je crois, chez IDW. Mais en les années 90-2000, tu avais des comics qui étaient largement pires que ça en termes de dessin. Là, c'est vraiment plutôt correct, hein, je trouve.
Oui, mais c'est correct. Mais est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce que j'ai lu les comics Star Wars dans les années 80. J'ai un petit côté nostalgique en les lisant, et bien sûr, pareil, hein, ça, tout a été retconné lorsque le Retour du Jedi est sorti, par exemple, parce que pareil, c'était censé filer tout ce qui était entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, mais si tu veux, on devrait attendre autre chose. C'est quand même une très grande franchise, avec Doctor Who, avec Star Wars, on ne devrait pas juste sortir des comics pour les fans et ne pas leur proposer quelque chose d'exceptionnel.
Ah oui, mais là tu vas loin, parce que moi c'est pareil, on peut pas avoir toujours de l'excellence. Moi je trouve que c'est quand même un bon niveau.
Ouais,
c'est pas dégueulasse,
honteux.
Quoi.
C'est pas honteux.
On a vu tellement pire avant et après.
Y compris dans Star Trek et dans Star Wars d'ailleurs.
Exactement. Les personnages sont ressemblants, c'est bien dessiné. Il y a beaucoup de détails, la couleur est vraiment jolie, la mise en scène est propre. Non, franchement ça va. Hein.
Après, c'est vrai que si vous pouvez feuilleter des comics de J.K. Woodward, je vous les conseille vraiment, parce que là, pour le coup, on est sur un très haut niveau de dessin. Il continue de faire du Star Trek, d'ailleurs, je crois. En tout cas, il fait des couves, ça, c'est sûr. Et là, c'est vrai que tu es un peu sur une autre dimension. Maintenant, ouais, j'ai lu pire, surtout dans les années 80-90. Ouais.
En tout cas, moi, je me retrouve finalement à défendre la bande dessinée. Alors, hier, j'étais un peu le seul, finalement, à vouloir un peu casser le film. Moi, là, je vais être un peu le seul à défendre la BD, parce que tout simplement, moi, finalement, quand j'ai lu la bande dessinée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je voulais voir dans le film, comme histoire, plus que ce qu'on a eu réellement. Ça m'intéressait plus d'avoir le personnage de Nero, tout ce qui se passe, etc. Parce qu'effectivement, il y a une dimension un peu politique, etc., qui, moi, m'intéressait plus. Et puis, effectivement, ça m'intéressait plus de revoir les personnages de la nouvelle génération que des nouvelles versions des personnages classiques, quoi. Donc, on va parler de la BD un peu plus en détail. Donc, Star Trek Countdown, c'est une préquelle donc, de bande dessinée qui est en 4 numéros seulement. Donc, comme on l'a dit, du film de 2009 qui a été publié chez IW Publishing. Donc, il suit donc, les aventures du personnage de Spock et du Romulin Nero pendant l'année 2387. Donc, juste quelques années après Star Trek Nemesis, et qui détaille donc les événements qui vont les faire voyager jusqu'au siècle précédent. L'histoire donc, sert à la fois de prélude du film, mais aussi de continuation donc, de Star Trek La Nouvelle Génération. Et là, on retrouve un peu effectivement cette idée d'histoire qui est un peu la croisée des chemins entre séquelles et préquelles, qui, moi, je trouvais ça plutôt sympathique. C'est vrai qu'il a un côté un peu damage control par rapport à certaines choses du film, donc, comme on l'a dit. Donc, la bande dessinée, à la base, elle est née parce que Anthony Pascal, rédacteur en chef de trekmovie.com, le site, n'arrêtait pas de demander au co-scénariste du film, Roberto Orci, visiblement avec qui... ils se connaissaient, ils étaient un peu proches, quoi. De faire en sorte que les personnages de la nouvelle génération passent le relais aux originaux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les personnages qui ont pris la suite des personnages originaux, donc la nouvelle génération, qui repassent le relais à une autre version des personnages originaux. Et ça peut s'entendre, et d'ailleurs, quelque part, c'est exactement ce que fait la bande dessinée. Donc les scénaristes Tim Jones et Mike Johnson, qui étaient eux fans de la nouvelle génération, et travaillaient pour la société de production de Orci et Kurtzman, ils ont été autorisés à lire des parties du scénario pendant la production, quoi, et à regarder des parties du film pour mieux comprendre le personnage de Nero, parce que visiblement, il était clair à mon avis, déjà à l'époque, quand ils ont fait le montage, ils se sont rendus compte que le personnage était trop unidimensionnel. Il y a des scènes, on n'en a pas parlé hier, mais il y a des scènes coupées où en fait on explique que pendant 25 ans, entre l'arrivée de Nero où il détruit l'USS Kelvin et les événements qu'on voit dans le film, il s'est passé 25 ans où il était en prison, dans une prison klingonne. Donc toutes ces choses-là qu'ils n'ont pas pu mettre dans le film, ils ont essayé d'étoffer un peu des choses dans la bande dessinée, ce qui fait un peu le côté damage control, quoi. Ce qui explique aussi que, par exemple, le vaisseau de Nero, il est en partie Borg. Parce qu'en fait, le vaisseau de base, c'est un vaisseau minier qui n'avait pas du tout cet aspect-là. Et ils vont piquer de la technologie à un moment donné pour avoir ses pensées. Le vaisseau n'a pas plus de sens, mais en tout cas, voilà, on peut imaginer qu'à cause des Borg, ça a créé des excroissances cheloues de tentacules qui fait que le vaisseau est devenu gigantesque et vraiment très, très étrange, avec des plateformes, effectivement, où on peut se promener comme Super Mario à l'intérieur.
Et des fuites d'eau, parce que visiblement, il y a plein de flottes.
Il
faut qu'ils appellent un plombier.
Ouais. C'est clair.
Mais ça, c'est pour refroidir les systèmes de propulsion.
Ouais, mais il y a comme une fuite, du coup.
À partir du moment où ils utilisent de la bière pour refroidir l'Enterprise, ils peuvent...
Ils ont aussi choisi, en fait, ils ont visiblement vraiment travaillé pour qu'il y ait un peu des passerelles, choisi le fait que l'équipage de Nero soit des mineurs et non des politiciens ou des guerriers. Donc là, on peut découvrir effectivement les personnages de la nouvelle génération. Ils en sont sauf, effectivement, Troy, Crusher et Riker. Et avec la résurrection de Data à travers Before, alors c'est ça que moi, je trouve qui m'a plus gêné de tout le comics, en fait, c'est que c'est la solution de facilité. C'est-à-dire, dans Nemesis, on utilise à la résurrection de Data par ce truchement-là, et puis c'est exactement ce qu'ils font. Et puis ils en font le capitaine de l'Enterprise, eux. Bon, vraiment, là-dessus, ils ne se sont pas vraiment trop foulés.
Est-ce que je peux juste en profiter pour placer quelque chose, parce que tu as répété deux fois que Troy ne faisait pas partie du scénario, mais il y a quelque chose d'incompréhensible dans son rôle, la position qu'on lui a donnée au départ en tant que conseillère, psychologue, et en fait, de ne jamais l'utiliser. On le voit, la seule fois où elle a réellement été utilisée de manière conforme à sa position de conseillère, c'est dans Star Trek Picard, quand elle conseille
Et dans
Picard.
Voyager.
Et dans Voyager. Mais si tu veux, c'est les deux fois où les scénaristes ont réellement compris le personnage. Après, on l'a clairement prise juste pour son décolleté, mais le rôle de conseiller devrait être autre chose. Et son rôle devrait être fondamental.
Tu veux dire qu'elle aurait, ça aurait été intéressant de la revoir dans ces comics-là, tu
Tout
veux dire.
À fait. Elle avait la légitimité de par son titre. Et bon, Crusher, c'est un docteur, donc voilà, peut-être qu'il n'y avait pas de...
Mais si, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a des vaisseaux médicaux qui arrivent pour... une fois que la catastrophe est arrivée, que Romulus est détruit, il y a des vaisseaux de la Fédération médicaux qui viennent porter secours. Donc effectivement, on aurait pu imaginer Crusher.
Ouais, mais voilà. C'est déjà tellement forcé, si vous voulez.
Oui, faire revenir tout le monde.
L'intégration de ceux qui sont là sont tellement forcés que c'est vrai que si à chaque fois que tu as besoin d'un docteur, c'est Crusher, et à chaque fois que tu as besoin d'une psy ou d'un machin, c'est Troy.
En fait,
c'est compliqué.
Les deux seuls vrais personnages de la nouvelle génération qui sont à peu près crédibles et logique dans cette histoire-là, c'est Picard et la Forge à la rigueur. Et Worf et Data, c'est clairement forcé. C'est
bien sûr. Puis bon,
Troy Data... était légitime.
Oui, je suis d'accord. Sinon, en tout cas, ils ont quand même joué le fait de créer un truc un peu cohérent, parce que les uniformes de Starfleet qu'on voit dans la BD ressemblent à ceux qui sont développés pour Star Trek Online, en tout cas à l'époque. Donc du coup, Cryptid Studio est lié à la bande dessinée en incluant donc la promotion de Picard en tant qu'ambassadeur de Vulcain et la résurrection de la promotion de Data dans l'histoire de son jeu. Ça avait été évoqué à l'époque, donc évidemment, on sait très bien que quand Star Trek Picard est arrivé, ils étaient un peu embêtés parce qu'ils avaient développé tout un lore qui finalement, ils ont dû rétro-pédaler. Alors je sais pas trop comment, parce que moi je joue pas au jeu, mais je sais que ça a donné lieu à beaucoup de mouvements au sein de ce jeu en ligne qui continue toujours à marcher très bien. Le troisième numéro de Star Trek Countdown...
C'est la Orsi Timeline. Elle est moins connue que les autres. Elle existe.
Et en fait, ouais, ils ont quand même poussé le truc, hein, parce que la BD a quand même vachement bien marché. Le troisième numéro de la BD a été la première BD à sortir dans les magasins en print et aussi sur iPhone le même jour. Donc, on parle en 2009, où à l'époque, on se disait « Ouais, les BD numériques, ça va révolutionner. » En fait, ça n'a rien révolutionné du tout, mais à l'époque, c'est ce que certaines personnes se disaient. Et donc, voilà, c'est quand même une BD qui a bien marché et qui a quand même donné un peu une sorte de franchise, une micro-franchise Countdown. C'est-à-dire qu'après, quand il y a eu le film suivant, Into Darkness, il y a eu un Into Darkness Countdown. Il y a eu un Cannes Countdown aussi, en 4 numéros, édité, etc. quoi. Donc, voilà, c'est malgré tout ce qu'on peut en dire, moi, je trouve que c'était assez intéressant, cet exercice de damage control, de se dire « Ah, il y a quand même des trous de scénario dans le film. Bon, dans la BD, on va le combler. » Alors, effectivement, ça fait plaisir aux fans, mais en même temps, vu la minutie, alors c'est vrai qu'ils se sont vautrés, il y a des choses qui ne sont pas du tout réussies, hein, on l'a déjà évoqué, mais le fait de donner autant de détails, ça montre que c'est des gens qui s'y connaissent. Donc Orsi, par exemple, il y a, je pense, quand je dis ça, je pense à une scène où Nero, à un moment donné, est l'hôte de l'Enterprise E, et il va consulter les bases de données de la Fédération, parce qu'il ne s'y connaît pas tant que ça. En fait, c'est un mineur, le gars. Et il va consulter, par exemple, bah, le journal de l'histoire de James Kirk, comme ça. Et puis du coup ça justifie le fait qu'ils le connaissent, c'est un détail, c'est juste une case, mais dans la BD, dans la lecture de la BD, dans le cheminement de Nero, ça fait sens à ce moment-là, et du coup c'est créé uniquement pour justifier une réplique qu'il y a dans le film, mais ça marche, quoi.
Ouais, puis t'as les Raymond qui apparaissent, on en a parlé hier dans la capsule de Manu. Alors bon, moi, je déteste ces personnages.
Mais là, ils ont un rôle qui est pertinent.
Mais c'est vrai que faire l'effort de se rappeler qu'ils existent, alors qu'en effet, dans Picard, ils sont complètement oubliés. J'aurais fait pareil, hein, j'aurais fait le même choix. Honnêtement, je les aurais oubliés aussi. Mais c'est intéressant et ça montre un intérêt pour la franchise étendue, quoi.
Mais ce qui est intéressant, là, tu viens de reparler de Picard, donc, et on a un peu parlé en intro, l'intérêt de cette BD, quand on voit justement la première saison de Picard, c'est que dans les deux cas, on a donné ce rôle central à Jean-Luc Picard dans la crise romulienne, ce qui n'allait pas forcément de soi. Alors là, c'est en tant qu'ambassadeur sur Vulcain, et dans la série Picard, c'est à l'époque où il est encore amiral. Et donc il est encore dans Starfleet. Mais le fait d'avoir fait du personnage de Picard un personnage central dans cette crise géopolitique, je trouve que dans les deux cas, c'est un super bon choix. Puisque ça, évidemment, dans la première de Picard, ça impacte vachement son cheminement personnel avec cette crise des réfugiés romuliens, le fait qu'il se prend d'affection pour ce jeune romulien qui devient quasiment son fils adoptif, et c'est pour ça que ça m'a fait râler dans la saison 3 quand finalement il est complètement oublié au profit de spoiler, son fils biologique. Ils avaient compris dans quelle direction il fallait emmener la franchise et les personnages historiques. C'est là qu'on voit sans doute, on l'a déjà répété, Orsi et Kurtzman n'ont fait qu'écrire le synopsis, mais pas le scénar précis de la BD, mais quand même, ils avaient compris où il aurait fallu emmener la franchise. Et rien que pour ça, ça reste une lecture intéressante aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, on pouvait très bien apprécier le film sans lire cette BD. Je pense que lire cette BD sans voir le film, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un complément au film, et c'est pas une BD qui se tient toute seule. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment ça reste un truc anecdotique, mais ça reste un petit truc comme ça, un petit goût de dire « Ok, il y avait comme ça des... » Évidemment, ils ne sont pas concertés, mais il y avait une volonté d'aller vers ce truc-là qui était l'aspect intéressant de la première saison de Picard. La première saison de Picard a plein d'autres défauts, mais cette base-là était vraiment la bonne idée, je pense, pour la première saison de Star Trek Picard.
Surtout, ce qui plaît, du coup, c'est le fait qu'on voit qu'il y a une volonté de raccrocher les wagons entre les différents médias. Et ce qui, des fois, on a l'impression qu'ils ont oublié un peu de faire ce genre de choses. Quand on voit les multiples séries, il y a des incohérences qui auraient pu être faites ou évitées, peut-être même. On n'a pas l'impression qu'il y a une direction générale de toute la franchise, quoi. Je ne parle pas de faire forcément des crossovers ou des trucs comme ça, mais que des fois, il y a des choses qui auraient été plus logiques. Par exemple, éviter d'avoir des plots qui sont similaires dans deux séries différentes la même année. Ce genre de truc.
Tu penses à Prodigy saison 2 et Picard saison 3
par exemple, mais c'est pas le seul exemple.
Bon, après, sous l'ère Berman, qui est pour nous l'ère un peu bénie, t'avais la guerre des Dominions dans Deep Space Nine, et quand il faisait un film, il l'évoquait même pas, alors que c'était la guerre, c'était l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale chez nous, quoi.
C'est donc vrai.
L'évoquer, genre, ah, t'es revenu, ça se passe bien en Allemagne, c'est un peu. C'était un peu léger.
Mais nous, on va pas les t'aider.
C'est ça. Nous, on n'y va pas.
C'est toujours le même problème, même dans les comics de super-héros. Quand il y a une méga-crise dans, je sais pas, un épisode, un numéro de Flash, tu dis, mais pourquoi Superman vient pas l'aider alors que c'est la fin du monde? Voilà, c'est malheureusement, t'es toujours coincé avec ce genre de truc-là.
Ouais, mais en tout cas, il y a juste quand même, malgré tout, le lore qu'ils ont développé dans le scénario sur le personnage de Nero. Quand même, la motivation de Nero, elle reste bizarre. Parce qu'en fait, c'est intéressant ce qu'ils ont développé dans le sens où, donc, il y a Spock. C'est un peu embêtant aussi que ce soit lui qui découvre la menace de cette supernova chelou qui est censée détruire tout l'univers. Alors ça, c'est complètement étrange. Et heureusement, c'est mis sous le tapis dans Picard en disant que c'est plutôt l'étoile du système de Romulus qui se transforme en supernova, ce qui a quand même beaucoup plus de sens. Mais en fait, bref, donc c'est Spock qui découvre qu'il y a cette menace-là.
Il y a un petit côté Krypton dans Superman où personne ne veut le croire.
Exactement. Au début, oui. Et après, les gens, ils se disent « Ah oui, finalement, il a raison ». Donc Spock essaye de découvrir, parce qu'il y a Nero justement qui est témoin de ce qui arrive, parce qu'il travaille à un endroit pas loin de l'Empire, et puis donc il constate quoi, il dit oui, Spock a raison en fait. Spock réussit à convaincre les Romuliens qu'il a un plan avec cette fameuse matière rouge, etc. Donc ils doivent récupérer quelque part, c'est là où les Raymans interviennent justement, donc il y a une petite bataille spatiale, l'Enterprise qui intervient, etc. Donc ils vont sur Vulcain, et en fait en gros les Vulcains ils disent non mais la matière rouge, nous on va la garder. Nous, on sait faire, on va le faire. Pendant que les Romuliens, je le rappelle, eux, ils ont décidé de rien faire. Ce qui est quand même bizarre. Donc, et là, Nero, il est un peu chafouin, mais quand même, il accepte. Et finalement, en gros, si vous voulez, les Vulcains, ils font tout ce qu'ils peuvent pour développer la solution pour aider tout le monde, en fait. Sauf qu'ils la développent trop tard, ils n'arrivent pas à faire plus vite. Et entre-temps, Romulus est détruite plus tôt que prévu. Et du coup, Nero, il va en vouloir plus aux gens qui essayent de le sauver et qui n'y arrivent pas malgré tout, qu'aux gens qui auraient dû faire quelque chose et qui n'ont rien fait. Et c'est ça qui est étrange. Pourquoi en vouloir à Spock ? C'est viscéralement comme... C'est-à-dire que le mec, il a vraiment un pète au casque quand même.
Non. C'est souvent les personnes qui cherchent à aider, comme elles sont en première ligne, comme elles sont proches, comme elles sont là. En fait, dans la psychologie, en fait, tu en veux à la personne qui est là.
C'est comme on en veut à Alex Kurtzman, pareil. Voilà.
Ok, non, mais vous m'avez convaincu.
T'es la personne, non mais la plus proche. Et il n'y a pas de lien plus que ça, mais tu es juste là. Donc, en fait, on en veut à la personne qui est juste là. Moi, ça ne me paraît pas incohérent. Et en fait, le personnage, oui, est complètement tordu. Oui, c'est un méchant. Mais le seul côté un peu rédempteur du comics, c'est de vouloir lui donner plus de profondeur, de rendre justice peut-être à Eric Bana, qui est quand même un grand acteur, mais qui n'a pas eu sa chance, la chance de pouvoir le montrer.
Mais en fait, si, dans le film, je trouve qu'il est très bon. C'est juste que les dialogues qu'il a sont pas ouf, quoi. Ouais. Mais lui, j'en veux pour preuve la scène où, en fait, 25 ans plus tard, le premier plan qu'il y a sur lui, où on le voit, il est, je sais pas, couché sur le sol avec des yeux chelous. Il dit rien, on l'appelle, et puis il est tout transpirant. Enfin, il transmet quelque chose, quoi, l'acteur. On sent la souffrance du personnage. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est dans les dialogues que ça marche pas. Mais quand il dit rien, quand on le voit juste, quand il est silencieux et qu'il va tuer le capitaine robot au début du film, enfin, je trouve qu'il a une présence incroyable.
Non, mais c'est un grand acteur. C'est un grand acteur.
Ouais, je sais pas si c'est un grand acteur, mais c'est vrai qu'il est meilleur quand il parle pas, en fait. Ça semble vraiment médisant. Mais son meilleur film, c'est Munich de Spielberg. Et c'est un film qui est quasiment un film silencieux, Munich, en fait.
Je ne vais pas le dire, j'ai parlé de Mouse tout à l'heure.
Il prononce trois phrases en fait et ça suffit. Bon, why not? Après, est-ce que le comics apporte des choses sur Bana? Je suis pas tellement d'accord.
Le personnage.
Tu comprends pas pourquoi le mineur d'un seul. Alors, dans le film, ils essaient de t'expliquer que c'est presque un. Enfin, ça a l'air médisant quand je le dis, mais un moins que rien un peu. C'est pas, en effet, c'était pas le patron de Romulus ou quoi au caisse.
C'est un prolo de Romulus.
Le Romulus d'en bas, tu veux dire?
Un prolo, donc à moins que rien à mes yeux, comme tu le sais. Et là, quand même, dans le comics, il se retrouve ultra central, en fait, si tu veux. Moi, je trouve que sa position est pour le coup un petit peu contradictoire avec la façon dont il nous est présenté dans le film.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, il a un asset qui lui permet d'être au centre du jeu. C'est-à-dire que comme il a un vaisseau qui est équipé pour miner, Il est utile pour récupérer la fameuse matière rouge.
Du coup, il rencontre Spock, il rencontre Picard,
il rencontre
Worf. Enfin, tu vois, le mec, d'un seul coup, c'est devenu le personnage le plus central de l'univers romulien. Alors que pour le coup, je trouvais que dans le film, le côté... en effet, c'était quelqu'un qui a juste subi et rend le personnage plus crédible. En effet, l'explication de Marina, que moi j'aime bien, qui est de dire finalement, il blâme la seule personne qui a essayé de l'aider... ça correspond avec ce côté, c'est pas l'élite en fait, c'est juste un mec qui a subi la mort de sa femme et la mort de son peuple, ce qui est quand même assez terrible, quoi.
Et de vouloir mettre des personnages de profession, des mineurs, des drillers, ça rejoint en fait Armageddon dont on parlait tout à l'heure, parce que
Abraham a co-écrit le film.
Qui nous sauve dans Armageddon? Des drillers, des gens qui sortent de plateformes de forage. C'est pas des astronautes qui ont bac plus... c'est pas Thomas Pesquet. C'est des gens qui ont... des tout-venants. Et ça me dérange pas, en fait, le côté, justement. C'est souvent la plus petite personne. N'oublions pas ce que disait Galadriel. Même la plus petite personne peut changer le monde. Donc, pour une fois que je ne cite pas Game of Thrones...
Dans le film, à aucun moment, ils essayent de te faire comprendre qu'il était impliqué dans la sauvegarde de Romulus.
Non,
si tu veux.
Non mais
c'est
pas
du tout le
lore qu'on a expliqué de la BD, finalement, dans le film, c'est complètement absent, en fait.
Il est le grand sacrifié du montage final du film. On en a un peu parlé hier, les fameux 25 ans qui sont écoulés, où en fait, quand on voit les scènes coupées, on comprend qu'ils étaient dans une prison Klingon. C'est absolument pas expliqué dans le film. Il est la victime du montage, ce qui en effet simplifie à l'extrême ses motivations qui n'en sont pas. Il est méchant parce qu'il est méchant.
D'ailleurs, il devient quoi, Eric Bana?
Pas grand-chose. Hein.
Ouais, depuis Munich, c'est léger. Hein.
Il a été Hulk.
Mais c'était juste, c'était avant.
Et justement, juste pour dire un petit détail sur ces scènes coupées qui se passent dans les prisons Klingon, j'avais beaucoup aimé, moi, le subterfuge qu'ils avaient pour dire, bon, alors, est-ce qu'on fait des Klingons avec le front lisse ou avec la crête? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait des gars avec des masques qui ont des casques qui ont la crête. Du coup, on ne sait pas s'ils ont un front lisse ou pas, pour justement justifier, garder un peu l'explication de Star Trek Enterprise. J'avais trouvé que cette espèce de petite pirouette était intéressante, quoi. Et en plus de ça, en vrai, c'était plutôt stylé. Le design était bien.
Et on les entrevoit dans Into Darkness.
Ouais, dans le deuxième, ouais, tout à fait. Pendant ce temps, Marina, elle cherche sur IMDb.
Qu'est-ce qu'il devient, Eric Bana? Il a joué dans 3.
Mais c'était avant,
ça.
Il a fait ses meilleurs films avant.
Le premier film qu'il a réalisé, qui s'appelait Chopper, qui était un
jeu un sale qui est Canicule en 2020, mais je crois que c'est...
Une malédiction, il a joué dans Star Trek et c'est fini.
Ouais, et bah putain, il y a vraiment une malédiction.
Il a joué dans Romulus My Father. Il jouait le rôle de Romulus.
Ah, aucun lien avec
Star
Trek.
Deux sœurs pour un roi.
Ouais, c'est pas brillant, quoi.
Ouais, effectivement, c'est pas ouf. Hein. Le roi Arthur, le film de Guy Ritchie.
Ça fait partie de ces acteurs qui n'auront pas survécu à la fin du cinéma muet, finalement. Il y a quelques acteurs comme ça, donc... L'arrivée du parlant a été...
Il était dans un épisode de Top Gear, séquence star dans une voiture petit budget.
Waouh.
Là, franchement, on sait pas pourquoi. Mais c'est un bon acteur, hein, dans Munich, il était très bon. Oui, Hulk.
C'était pas lui le plus gros problème du film.
C'est exactement ça.
Il y avait des caniches mutants géants, quand même.
Ouais, ça c'était dur.
Dans 3.
Ok, bon, donc moi je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que ça me permettait vraiment de faire un complément à ce qu'on disait sur le film hier, que ce soit au niveau des scénaristes et puis d'Eric Bana, du personnage de Nero dont on n'avait pas trop parlé finalement. Du coup, ça rattrape bien le coup. Là, ce que je propose, c'est qu'on passe le micro aux personnes qui sont avec nous. Donc la plupart sont des membres du Discord du Cadran Pop et on va leur poser cette question. Alors si vous avez lu la BD, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé du film de 2009 et à votre avis, est-ce qu'on n'a pas dit trop de bêtises?
À mon avis,
oui. Présentez-vous d'abord.
Bon, moi j'aime bien la BD.
Présente-toi. Hein.
Oui, Pascal, Trickers devant l'éternel, balayeur trésorier et tout du site Saga qui travaille notamment sur les comics Star Trek. Alors j'avais une question à poser. Quand vous avez lu sur le comics, c'était avant ou après avoir vu le film?
Moi, c'était avant.
Moi, c'était après.
Parce que la plupart des gens, c'est après.
Mais juste après.
Alors que les quatre tomes amènent le film. D'ailleurs, si on veut regarder le film et analyser chaque séquence, il est incompréhensible. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas l'information. Tu parles du fait les 25 ans qu'il a resté bloqué quand il est prisonnier sous Urapente. Il y a aussi eu un comics là-dessus.
Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, il y a un comics Nero.
Le fait que le...
C'est un spin-off quelque part de Countdown, du coup.
Oui, mais en fait, ça fait pas...
Oui, ça fait
partie
fait
de spin-off
tout,
avant ou ce qu'il avait pris avant.
Ouais, bien sûr.
Le fait que Worf, qui part un peu comme chef Klingon dans DS9 puis qui revient en arrière, parce qu'il s'engueule avec... il ne supporte pas la politique du nouveau dieu, là. Kallès qui est revenu, et donc c'est pour ça qu'il revient un peu en arrière, il descend de grade. Tout ça, c'est expliqué dans un comics aussi. Si on lit les comics dans l'ensemble, maintenant j'admets, il y en a plus de 500. Hein.
Oui.
Donc c'est un fameux paquet.
Le numéro 500 est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Et tous en anglais. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais ça bouge pas les trous. Ça forme un ensemble. Je dirais presque même que les comics ne sont pas une annexe au film, c'est le film qui est une annexe. Oui. Au comics.
C'est comme ça que je l'ai pris, parce que, comme je disais, c'est ce que j'aurais voulu voir dans le film, en fait. Mais ça, c'est que moi, visiblement.
Mais non, puisqu'ils étaient dans les comics. Puisqu'ils étaient dans... Et bon, là, la France, vous avez un problème, c'est qu'ils n'ont sorti en français, pour les allergiques à l'anglais, que 9 mois après le film. Alors que dans tous les autres pays, ils sont sortis avant.
Et d'ailleurs, dans le dernier épisode du comics, c'est marqué « à suivre dans le film au cinéma ».
Et pour le deuxième film, ils ont essayé de faire la même chose. Il y a d'ailleurs quelques scènes, notamment la scène du tribul, la scène de la navette de Mud, qu'on ne comprend pas si on n'a pas lu la BD. Et après, ils ont abandonné ce système parce qu'ils ont marqué que ça ne marchait pas.
Mais... Oui, parce que c'est problématique quand même de, de dire aux gens que
il faut faire ses devoirs avant d'aller voir
un
film.
Il faut faire ses devoirs avant d'aller voir un film. C'est quand même pas le but. Et ils avaient réussi à faire 40 ans de Star Trek avant ça, sans avoir besoin de lire de l'univers étendu, si tu veux.
Oui, mais ce n'est pas valable uniquement dans Star Trek. Hein. Si on prend Dune, les films sont bien, mais ils sont un peu faibles par rapport à.
Oui, mais c'est pas pareil. Parce que c'est une
adaptation. La première, c'est le livre. C'est pas le film.
C'est pas un complément, oui.
Et on parle des autres BD. C'est vrai qu'en ce moment, c'est IDW qui est un peu la locomotive. Mais si on revient aux anciens ici, avoir lu les BD de chez Golquet, par exemple, ou avoir vu les DC Comics, où là, c'était une autre... Dans les DC Comics, on a l'impression que tout l'équipage fait du bodybuilding.
Ouais, non, mais c'est une autre dimension, hein, c'est clair.
Ben si, quand on voit les Laves, par exemple, y a même les Peter Pan, qui sont encore un peu... Ils ont chacun leur public, leur chose.
On va faire intervenir d'autres personnes qui voulaient commenter sur...
Bon, on va faire le tour, hein, de toute façon.
Bah Clara, du coup, vous m'avez déjà entendu dans le podcast et sur le site Alpha.
Et tu as gagné hier le quiz avec moi.
Gagné.
Tout est relatif, c'est ça.
On va pas revenir sur le sujet. Mais...
Je vais essayer de faire court, sinon Manu va se foutre de moi encore. Alors,
mais fait court.
J'ai pas lu la BD. Ce que j'ai pensé du film, je pense que c'est un film d'action qui se regarde très bien, mais c'est un très mauvais Star Trek. Et pour moi, en fait, il y a plein de problèmes dont on a tous parlé ensemble hier, mais je pense que pour moi, ça se résume à une scène où Kirk veut faire de la diplomatie, offre une main offerte aux Romuliens et se tourne vers Spock. Et c'est Spock qui lui dit « la diplomatie, c'est de la merde ». Et ça s'explique dans le film parce que Spock est traumatisé et tout. Mais en fait, c'est le film qui fait dire au personnage qui est le plus emblématique de la saga, qui est le personnage qui est l'image de la logique, de la diplomatie, le personnage qui... On voit Kirk faire la paix avec les Klingons. Enfin, c'est une image assez importante de voir Spock qui va dire à Kirk « Ouais, on s'en fout de la diplomatie, faisons des piou-piou et tuons-le. »
Surtout, c'est pire parce que c'est montré comme une blague, en fait. C'est en fait, c'est Kirk qui arrive, donc ils voient qu'ils ont défoncé le Nerada qui est coincé dans le trou noir. Il y a un appel, donc ils discutent, etc. Kirk propose son aide, puis là, Spock qui fait oh, quand même, capitaine, là, je suis. Le Kirk qui dit oh, ça devrait vous faire plaisir ce que je fais là.
C'est une blague, mais il le fait, malgré tout.
Oui, mais il le fait sans sourciller, et puis il balance tout, quoi. Et puis il crame les gars, quoi. Je veux dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, oui, mais enfin, le truc de Nero, c'est non, mais laisse tomber, je préfère que Romulus remeure de nouveau.
Sur n'importe quelle série, le Picard, Genoa, Cisco, ce que tu veux, mecs, ils auraient fait quand même, ils l'auraient sauvé malgré lui, quoi.
Oui, enfin bon, quand ils balancent les raiments du haut de leur vaisseau tout pourri, non, parce que tous les vaisseaux, apparemment, entre Dark Vador, notre point commun de Star Wars, c'est apparemment, t'as un puits profond dans tous les trucs qui sont construits dans l'univers.
T'es Pericoloso, Cisport Jersey, les vaisseaux.
Bon, ils se posent pas toujours la question quand ils balancent le méchant à la fin du film.
Mais je suis d'accord, en tout cas, je suis d'accord avec Clara. Pour moi, cette scène, elle a aucun sens.
Khan, ils essayent pas trop de le télétransporter après que la bombe Genesis ait explosé non plus.
Ils ont pas eu le temps.
Ouais.
Ils ont pas fait d'efforts.
Il y avait les pecs à transporter. Je suis désolée, ça s'appelle sans
poids. Trop de poils.
Dans la colère de Khan, tu peux dire ils ont pas eu le temps, etc. La question n'est pas posée. Là, les personnages se posent littéralement la question. Ils font des blagues dessus.
Donc il a plus de cœur.
Ils se décident. On le bute, on s'en fout, quoi.
Allez, mais on continue.
Mais quand même.
Non, j'ai dit refuser la main tendue.
Mais peu importe.
Ah, il refuse. Non, mais il la refuse. Le dialogue, il est presque. T'en rigoles presque.
Mais oui, c'est ridicule.
Je rigole pas quand il dit je préfère revoir Romulus.
Romulus se détruit 10 fois. Non, mais c'est aucun sens.
Kianouche, et j'ai gagné un bel Enterprise I hier, donc je tenais à vous remercier.
Bravo.
Tu portes un t-shirt X-Files magnifique en l'honneur de Guigui.
Tout à fait. Et je veux dire, ça faisait plaisir de revoir ce film 15 ans après, parce que je l'avais pas du tout aimé à l'époque.
Et maintenant,
alors, avec le recul, quand je vois tout ce qu'on a vu maintenant, finalement,
c'est ça.
il était pas si mal en fait.
C'est comme la prélogie Star Wars, ça.
Putain, c'était bien finalement.
Exactement, finalement, ça fait cet effet. Ouais, avec le temps, on l'apprécie.
Mais est-ce que c'est pas le fait de l'avoir vu avec nous tous qui a rendu le film meilleur?
Ça aide. Ça aide beaucoup, effectivement.
Sens.
Ça, c'est l'aura de Guigui, ça. Ça rend tout bien. J'ai revu les gendarmes et les extraterrestres. J'ai trouvé
Écoutez,
ça
on va faire, on va faire un festival de gendarmes. Vous allez voir, c'est les extraterrestres le meilleur.
Je me suis dit, putain, c'est fou, Galabru avec les lasers dans les yeux. On dirait Superman.
Du coup, Maxime, chez Oui sur le Discord. Trois choses. Alors, j'ai lu la BD au moment de sa sortie. Je l'ai découvert par hasard après le film. Et j'avais trouvé que finalement, c'était pas si mal comme BD qui est lié à un film et que c'était tout à fait comparable en termes de qualité à ce que faisait Star Wars pour les films. pas les BD indépendantes, évidemment, qui peuvent être mieux ou pire. Pour le film en lui-même, je l'avais trouvé pas mal à l'époque pour ce qu'il est. C'est sûr, c'est pas Star Trek 6 ou First Contact ou autre, mais ça reste le meilleur Star Wars de J.J. Abrams.
Ça, c'est vrai. Il voilà. n'y a pas photo.
Et sinon, je sais.
Il n'y a pas de lapsus dans ton propos, c'est bien ce que tu as voulu dire.
Il n'y a, pas... a aucun lapsus. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça a été mentionné hier qu'effectivement, dans les films, il manquait comment dire, les conséquences de la destruction de Vulcain. Et en fait, entre les deux films, à l'époque de la Xbox 360 et de la PS3, ils ont fait un jeu vidéo Star Trek où on joue au choix Kirk ou Spock, et où on peut le jouer en coopératif, où justement la situation de départ, c'est de venir en aide aux Vulcains qui ont établi des avant-postes scientifiques.
C'est vrai, je m'en souviens.
Et c'était injouable. Je ouais. l'avais, c'était une cata.
Ouais, il paraît que c'était nul, ouais. ouais.
Typiquement, le genre de jeu développé en 2-2 pour coller à la sortie du film, et il y avait une séquence de vol spatial où tu te prenais la tête, c'était... Bref.
Bonjour, je suis l'ingénieur Adeline sur le Discord. Je pense que j'ai une très mauvaise mémoire, mais je pense que j'ai découvert Star Trek avec le film de 2009, que j'ai peut-être vu en salle. En tout cas, c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à regarder la série originale. Moi, j'avais beaucoup aimé le film, qui, a posteriori, est un mauvais film Star Trek, mais un bon film Star Wars. Je pense que c'est pas mal comme film Star Wars. Toutes les critiques, etc., qui ont été faites, je ne vais pas revenir dessus. Moi, il y a un truc qui m'a un peu gêné sur le film, surtout de le revoir en salle. C'était que la réalisation est très inégale. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont magnifiques, surtout quand les plans prennent leur temps, que les plans sont éloignés. Mais dès que c'est des scènes d'action ou que les plans sont très serrés, il y a une accumulation d'effets qui sont les plans très serrés, la shaky cam avec quelqu'un qui tape sur la caméra tout le temps. Les lens flares en plus.
Lens, on n'a pas parlé des lens. Ouais.
Qui t'éblouissent et les coupures toutes les moins d'une seconde qui rendent les scènes illisibles, les scènes d'action illisibles.
D'ailleurs, J.J. Abrams s'est excusé en interview quelques années après pour avoir abusé des lens flares.
Ouais. Ouais, véridique. C'est pas juste les lens flares, encore s'il y avait que les lens flares, mais c'est vraiment
oui, non,
l'accumulation.
Je suis d'accord
de
avec toi. En fait,
il y a les flous sur Spock dont on a parlé hier que j'avais pas remarqué,
exactement.
Mais qui sont grand vraiment écran, frappants
ça,
quand
ouais,
tu les revois.
Voit,
Il y a le slow-mo de Nero quand il saute de plateforme en plateforme qui est absolument ridicule. C'est vrai qu'il y a quelques moments qui sont quasiment gênants en termes de réalisation. J.J. Abrams restait un jeune réalisateur
du
cinéma.
Oui, c'est vrai. Mais à la base, c'était quand même une bonne idée, les lens flares et le fait de tapoter la caméra pour la faire trembler d'une manière, entre guillemets, analogique et naturelle, parce que ça permettait de lisser les prises de vue réelles et les images de synthèse, parce que ça permettait vraiment d'avoir la même chose sur les deux et du coup de donner vraiment une identité. Simplement, effectivement, sur certaines scènes, ça n'a pas de sens, c'est trop. Il en a trop fait, en fait.
Moi, je vais juste donner un exemple qui est la scène de combat dans le bar.
Oui, complètement.
Déjà, pour y aller lens flare dans un bar alors que c'est très mal éclairé, je ne sais pas. Mais en plus, on ne comprend absolument pas qui tape qui. On ne comprend pas qui prend des coups.
C'est marrant, je me suis fait la réflexion parce qu'en le voyant sur grand écran, j'avais l'impression quand même que les acteurs faisaient... il y avait une vraie chorégraphie de bagarre qui était faite, mais qui du coup est saccagée par la mise en scène, par le fait que la caméra tremble. Parce que j'ai cru déceler des mouvements plutôt sympas des deux acteurs, alors je ne sais pas s'il y a deux cascadeurs ou c'est Chris Pine qui fait lui-même, mais j'avais l'impression qu'il y avait une vraie chorégraphie de bagarre qui du coup est saccagée par la mise en scène.
Au-delà de ça, tu as des plans très beaux quand Kirk il est dans sa bagnole et tu le vois de loin, les vaisseaux, quand tu les vois de loin, tout ça c'est magnifique, avec la musique derrière, c'est incroyable.
Les plans extra larges, c'est un vrai truc de nouveau dans la franchise, je pense, faudrait que je vérifie, mais on parlait du plan juste avant l'apparition du logo Star Trek à la fin de la scène d'intro qui pour moi est magnifique, vraiment c'est un des plus beaux plans de Star Trek.
Je pense qu'il y a une grosse influence de Galactica, Battlestar Galactica quand même, parce que le côté à un moment quand il y a quelqu'un qui est happé dans l'espace et que du coup il y a pas
de bruit, une espèce de coup de zoom
et
aussi,
puis des coups de zoom effectivement genre reportage, c'est très Galactica quoi.
Sur la photo t'as deux trucs, t'as ça et les couleurs très dorées, métalliques, argent et compagnie, c'est complètement la photo qui était à la mode à l'époque. Vous voyez les films de Michael Bay notamment, que ça soit justement The Island, le premier Transformers, on est en plein, ou Bad Boys 2 notamment, c'est en plein la photo de l'époque. Encore une fois, c'est ce qu'on a répété plusieurs fois hier, il fallait que ce Star Trek s'inscrive dans le canon des blockbusters, que les gens allaient voir pour dire c'est pas le Star Trek à papa, c'est le gros truc bourrin de maintenant.
Mais ceci dit,
ça c'est réussi.
Mais ça, et surtout ça a bien vieilli, ça a très très bien vieilli. Je veux dire, les effets spéciaux et la production, et quand même malgré tous les défauts qu'on lui a trouvé, trouvé, bah, c'est très qualitatif par rapport à des films récents. Ouais. Quoi,
et il n'y a rien, malgré tout, je trouve, dans la façon dont tu filmes, par exemple, La Passerelle, il n'y a rien où tu dis, putain, c'est pas Star Trek, en fait. Quoi. Alors que dans Star Wars, j'aurais beaucoup de choses
c'est
à dire.
C'est juste moi, le décor de La Passerelle, moi, je ne l'ai pas dit, mais je le trouve infâme. Le truc blanc, là, avec le sol rouge, c'est dégueulasse.
Ouais, alors par rapport au décor de la salle des machines, qui est, elle, pour ouais, le coup,
l'usine de bière, là, c'est insupportable, ce décor.
Ça, c'est vraiment gênant.
Et justement, c'est un des trucs qui a très bien réussi Strange New World, c'est les décors.
Carrément.
Ouais, je me permets, je suis désolé, hein, j'ai encore des trucs à rajouter. Je voulais ajouter que les scènes d'émotion sont très réussies. Enfin, moi, j'ai été très touché à chaque fois que je vois le film. Je voulais aussi faire un parallèle avec d'autres films qui ont eu des BD en complément. Il y avait Mad Max, Fury Road, notamment, qui est plus réussi pour le coup, je pense. J'ai pas lu la BD de Star Trek, mais j'ai lu les BD de Mad Max et le film de Mad Max. Et le film de Mad Max n'a pas besoin du tout de BD. Et les BD apportent des trucs vraiment au film, donc je trouve ça très sympa. Un autre film qui avait un peu raté ça, c'était Southland Tales, qui était pour moi un excellent film que personne ne peut comprendre sans avoir lu la BD.
Ah, le film avec The Rock là et Sarah Michelle Gellar.
Tout à fait, le meilleur film de The Rock. Et en fait, c'est un film qui a vraiment été pensé comme étant la suite de la BD. La BD a été conjointement faite avec le film, et du coup, le film est très confus sans la BD. Et voilà, c'est.
Il y aurait quelques podcasts à faire sur Southland Tales aussi. C'est une aventure en elle-même. Notre intervenant.
Yasmine, je voudrais rajouter juste un dernier truc sur le film que j'ai bien aimé, mais que j'ai beaucoup de critiques comme toi. Romain Brami, j'ai levé la main deux fois. Il y a aucun personnage féminin et je compte pas Uhura parce que Uhura ne sert à rien si ce n'est à faire tampon entre Kirk et Spock pour dire en fait ils sont pas ensemble, ils peuvent pas être ensemble pour faire taire les fanficers, mais les fanficers ont quand même écrit apparemment beaucoup de fanfics sur la nouvelle itération de l'équipage original. Quand on reproche à TOS de ne pas avoir de personnages féminins ou de ne pas leur donner assez de place, ou on nous dit mais non, il est victime de son temps, c'est normal, c'est une série qui est quand même incroyable pour les années 60, il ne faut pas y voir juste nani, il faut voilà, comprendre, Uhura, c'était incroyable et tout, nanana. Ok. Il n'y a aucune excuse en 2009 pour qu'on ait Zoe Saldana sur le poster alors que ce n'est pas un personnage principal. En réalité, elle n'existe pas vraiment et du coup, il y a littéralement aucun autre personnage féminin dans ce film, ce qui est effroyable, hein, je trouve quand même dramatique.
Ils auraient pu en créer un spécialement. Le personnage d'Orion qu'on voit au début du film, moi je pensais, à l'époque, la première fois que j'ai vu le film, je pensais qu'on allait la revoir. Quoi.
Elle est rigolote.
En même temps, plus, elle est marrante. Elle est à poil dès la première
scène. Ouais, c'est sûr.
Ouais, mais c'est pas parce qu'on est nu que je suis désolée, on ne peut pas jouer une scène.
Non, mais l'actrice est sympa. Si l'introduction du seul personnage féminin nouveau, c'est un personnage à poil, c'est gênant.
Je suis d'accord avec ça, mais simplement, l'actrice est tellement solaire, elle joue tellement bien. Et son design, son maquillage et tout est tellement réussi que, et puis le fait qu'elle est en interaction avec Uhura et Kirk, moi je m'attendais à ce que ça devienne pas un personnage principal mais un personnage secondaire nouveau, et je me suis dit ils vont en profiter pour justement créer des nouveaux personnages. Je m'attendais pas à ce qu'ils allaient mettre Chekhov par exemple, tu vois.
Et en fait les seuls autres personnages féminins du film, c'est les deux mamans, donc ouais, là c'est aussi ça. C'est très réducteur, ouais, c'est pour des rôles de femmes.
Ouais, je sais même pas si on peut appeler ça personnage. On les nomme, c'est vrai. Elles ont peut-être, deux, trois trucs, mais c'est vraiment.
Winona Ryder a aussi des scènes coupées. Hein.
On a quand même moins de quatre, je pense, de quatre répliques. Hein. Ça compte pas vraiment. Et donc, pour ça, c'est pour le film. Et du coup, j'ai la même critique sur la BD. La BD, il n'y a aucun personnage féminin, si ce n'est la sous-fifre de Nero, un tout petit peu, qu'on voit avec les gros nichons, mais qui réagit pas vraiment. Et on a la femme de Nero aussi, mais qui est absolument pas.
Mais qui est là pour mourir.
Ouais, c'est la femme dans le frigidaire, quoi.
C'est ça. Elle apparaît pour dire reviens-moi mon cher mari, et puis il lui dit oui je reviendrai, et à la fin en fait elle meurt, et du coup elle réapparaît en souvenir de quand elle lui a dit reviens-moi mari, je sais pas quoi, enfin c'est absolument effroyable. Et du coup les personnages qui reviennent de TNG, même si de manière complètement on est d'accord ridicule, en plus il y a une surenchère, tu vois, au début tu vois Picard, tu dis ouais ça s'explique quand même, ok, ils viennent à Vulcain, les Vulcains les refusent, il entend parler de ça bien sûr, parce que et puis il intervient, ok, Picard. Puis juste après, il y a Geordi qui arrive, t'es là, mais.
Non, c'est Data d'abord.
Ah, Data. Non, il y a Data avant Picard. Ouais. Du coup, ouais.
Il y a Data.
Non, d'abord Data.
Ouais, il y a.
C'est oui. Data, ah Picard, bon la Forge.
Oui, c'est ça, c'est Data, c'est Picard. Data, ah, oui, franchement, ah, oui, moi, ça, Picard, ça m'allait.
Oui, c'est vrai, pardon, je dis n'importe quoi, oui.
Mais quand la Forge arrive, t'es là, mais. Il y a que lui dans l'univers qui sait faire truc.
C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est cette impression que l'univers est composé de 50 membres. C'est un des gros problèmes des autres séries qui sont arrivées ensuite.
Avec avec, comment il s'appelle, Worf, c'est...
Oui, là, Worf, c'est, là, c'est la goutte.
Ouais, mais encore une fois, là, le point commun entre tous ceux qui reviennent, c'est que c'est des mecs, en fait. Hein. Les deux personnages féminins seuls ne reviennent pas. Il n'y a pas de personnage féminin qui est créé. Qui intervient vraiment sur l'histoire. Nero, enfin bref, ouais, donc là c'était le côté féministe.
Ouais, mais il y a un autre truc même à ajouter sur le côté féministe, et vous m'y faites penser, c'est l'histoire de la mère de Kirk quand même, qui elle survit à l'accident, sauf son fils, et disparaît du film quand même. C'est vrai qu'elle apparaît jamais, et même à la fin. Finalement, t'as, bon, c'est peut-être les militaires entre eux, hein, mais t'as Pike qui dit à Kirk, ton père serait fier de toi, tu vois, et tout.
Et sa mère, rien à foutre.
Et la mère, tu te dis, putain, au moins elle pourrait être là, tu vois, genre, ouais.
Bah, surtout à la fin, oui, ça aurait du sens, oui.
Ouais, c'est assez surprenant la disparition.
Une fois qu'elle a pondu, elle sert plus à rien, évidemment.
Limite,
c'est parce que je pense.
Elle aurait pas fait une fausse couche, mais elle serait morte en couche. Ça aurait presque plus de sens dans cet univers. Enfin, c'est assez.
Et ouais,
c'est
un univers sans Kirk. Ouais. Ah oui, bah non, mais tant qu'à faire, non, mais allons jusqu'au bout, quoi.
Ouais. On a d'autres personnes qui vont intervenir.
Bonjour, Mika de Belgique. Alors, comme Romain en parlait hier, j'ai...
Lequel, il faut préciser.
Le toi.
Le moi.
Ah, voilà. J'ai vu ce film en 2009 avec un plaisir coupable, plusieurs fois au cinéma, et même sans l'accord des personnes qui étaient censées savoir que je n'étais pas, ou plus ou moins j'étais au cinéma. Et donc, je l'ai revu hier avec le même plaisir coupable, et c'était un très très bon moment en votre compagnie, c'est une très chouette initiative. Alors moi, j'ai une question un peu à la limite du sujet d'aujourd'hui, mais pour avoir fait quelques retranscriptions sur le Discord avec Yasmine...
Et merci d'ailleurs.
Voilà, je connais l'amour du commandeur Guigui pour la langue de Shakespeare... Et donc on comprend bien...
Pour le Fist Contact, hein, qui reste le moment important de la vie.
Et le Celia Rose Gooding, enfin voilà. Et nous n'en parlerons pas. Et donc, j'ai évidemment lamentablement manqué le début de cette merveilleuse discussion. En Belgique, nous avons eu donc cette BD chez Delcourt. Je ne sais pas si c'est le
oui,
cas.
Oui, c'est le cas aussi. Le cas oui.
Elle était même dans la loterie hier, quelqu'un l'a gagné.
Alors moi, je comprends très bien les motivations de Delcourt pour avoir sorti ce Countdown, évidemment, Compte à rebours, avant le magnifique film que nous avons vu hier. Oui, 9 mois après, c'est vrai. Et erreur.
La taille de Belge, attention, êtes-vous prêts ?
Ça va saigner. Et oui, après, pourquoi finalement ? Oui, je le comprends, mais comment on explique ce feu de paille ? Parce qu'après, on a eu Spock Reflections.
Ouais, on a fait gagner aussi
McCoy,
hier.
McCoy, qui était très 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 bien aussi, avec une histoire de téléporteur qui était assez magique et qui posait aussi un beau choix moral dans l'histoire. Et puis plus rien. Alors, qu'est-ce qui justifie, toi qui es justement dans ce milieu-là ?
La raison, elle est simple, très très simple, ça s'est pas assez vendu.
Je pense que la raison pour les suivants, c'est que les Countdown, comme l'a dit Romain, sont bien vendus, parce qu'on en a parlé vite fait hier, mais tu sais, il y avait une grosse attente sur le film de 2009, donc je pense que Countdown s'est vendu, donc ils se sont dit, bah allez, venez, on va faire un McCoy, on va faire un machin,
oui, parce qu'il y a eu presque 1 million de spectateurs en France.
Et qu'après, je pense que ça s'est essoufflé, parce qu'il faut admettre que la qualité des BD n'était pas
incroyable. Il a été poussé par le marketing.
Il y a eu une série régulière comique, Star Trek, tout court, dans l'univers, qui a duré quelques années.
Et qui n'est pas sorti vraiment en France.
Ah non, en France, non, bon.
Parce que quand on reprend le premier qui est ressorti, Réflexion, c'est sorti chez Engelmore, si j'ai bien fait, je ne suis pas sûr de la prononciation, vendu uniquement à Paris et dans quelques grandes villes. Mm. Bon, puis ils ont sorti chez... ils ont sorti un crossover Star Trek Transformers. Ouais. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui allait attirer
le plus.
Ça, c'est
chez notre ami Vestron.
Vestron. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui allait attirer le plus. Les
non.
Fans de Star Trek.
Non, non, non.
Sans compter que même sur le site de Velcro, il disait qu'il n'existait pas.
Non, mais alors, je vais, on va pas en parler. Mais c'est une mes grosses frustrations, c'est qu'effectivement, Vestron, en fait, c'est aussi mon éditeur de mes bandes dessinées, Bertrand Cafton.
Donc ils sont très bien. Ça, tu racontes des bêtises, c'est un très bon éditeur qui a très bien fait le boulot.
Disons que c'est très, très compliqué. Ça a été très compliqué pour lui d'éditer du Star Trek. Et effectivement, en fait, il éditait du Transformers lui-même dans son catalogue, ce qui faisait que ça lui faisait un pont idéal pour lancer Star Trek. Malheureusement, bon, ça s'est pas super bien vendu. Hein, encore que c'est pas ça vraiment la raison qui fait qu'il n'y a pas de Star Trek édité en France actuellement, c'est que c'est vraiment très 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 compliqué. En plus du fait que ce soit assez risqué financièrement, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et le deuxième qu'ils avaient prévu, c'est encore pire. C'était une cité au bord de l'éternité, version longue, donc celle qui aurait dû normalement passer
ça aurait été super.
En 2 épisodes. Mais c'est un comics qui existait déjà en version française officielle.
Oui, mais c'est pas grave.
Donc la plupart des fans l'avaient déjà. Donc ils n'ont pas
l'intérêt de commander. Oui, mais ça aurait été une magnifique réédition.
Allez, on va demander à une dernière personne qui est notre plus jeune auditeur ici, qui est Nathan. Nathan, je sais que tu es un petit peu timide, c'est normal, quand on est jeune, on est timide. Mais juste peut-être nous dire, en tant avec tes jeunes yeux...
Nous dire avec ses jeunes yeux.
De 13 ans qu'on a... De 16 ans, c'est ça? De 16 ans qu'on a plus depuis très très longtemps. Nous dire peut-être ce que tu as pensé du film hier et est-ce que ça te donne envie de... voilà, quoi, c'est quoi la suite de ton expérience trekkienne après ce film?
Alors déjà, c'était un très bon Star Wars. Et un très mauvais Star Trek, comme vous avez dit. Et mais je pense qu'une personne qui a regardé ce film va préférer Star Wars au reste de la licence Star Trek, parce que c'était pas du tout un bon film.
Toi, t'as commencé comment déjà? Rappelle-nous rapidement.
TNG.
Ouais. Ah, ça, tu continues bien. De penser, s'il y avait d'autres copains de ton âge, tu continuerais de leur. Maintenant que t'en as vu un peu plus, tu continuerais de leur recommander de commencer par là?
Oui, clairement. Okay. Avec Picard et tout, c'est les meilleurs.
Et si par exemple, et finalement, ils refusent de le faire, est-ce que tu continueras de leur parler?
Bah oui.
Ah ok.
Ouais, quand même. Par contre, si vous regardez Doctor Who là, non?
Oui, je te déconseille de mettre ça. Je te déconseille de mettre Star Trek dans la balance de tes relations humaines et surtout féminines. J'ai essayé, c'est très mauvais. Ça, tu vas attendre longtemps des trucs qui sont sympas, sinon qu'il faut pas attendre trop longtemps.
Tant que tu tolères ça.
Ok. Dernière question pour toi, c'est quoi la suite de? Tu sais ce que tu vas regarder? Qu'est-ce qui te reste à regarder? Qu'est-ce que t'aimerais regarder dans l'univers Star Trek?
Bah déjà DS9. Parce que sinon, je sais que je vais me faire frapper par tout le quadrant pop.
Bien vu.
Donc, je vais regarder DS9, je vous le promets.
Il faut que tu aies tout vu d'ici le prochain événement l'année prochaine.
Ok, promis.
D'ici le mois prochain, tu veux dire?
Aussi, ouais.
Évidemment. Non, mais non, DS9 et je pense... DS9 Enterprise.
DS9, c'est important. Non, juste un dernier mot sur la présence de vous tous aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous avoir. On est très, très heureux de vous avoir. Franchement, je ne vous cache pas que ces événements les organisent plus pour être avec vous que pour revoir le film de 2009, malgré tout, même malgré le plaisir que ça nous procure. Ça fait plaisir de voir quelqu'un comme toi, Nathan, aussi. Je ne veux pas te mettre trop en avant et désolé. Mais c'est vrai que l'un des problèmes de Star Trek qu'on a, et pas que depuis 2009, hein, depuis maintenant les années 90, c'est de se demander si la jeunesse sait encore s'adresser à un public plus jeune. Donc, voir des gens comme toi, ça nous donne quand même
de l'espoir. La jeunesse s'adresse à
la franchise.
La franchise peut s'adresser à la jeunesse et la jeunesse peut s'intéresser à Star Trek. Je vais la faire en deux phrases. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un de jeune comme toi avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est important pour nous aussi.
Une dernière question, est-ce que vous avez passé un bon week-end?
Oui. Merci Guigui.
Donc
Et merci à la merveilleuse de ville de Metz, en Moselle, nous avoir accueillis aujourd'hui et hier.
Donc oui, bah justement, j'en profite pour remercier tous nos partenaires, donc le club, Cinéma Le Club, qui a été vraiment très sympathique pour son accueil, c'était vraiment très bien. Momi BD, qui nous a beaucoup aidé pour la promotion et qui nous a fourni aussi beaucoup de lots pour la tombola, c'était très sympa. What the Food, qui nous accueille aujourd'hui rue Gambetta pour terminer ce magnifique podcast où du coup, moi je vais reprendre un mougou. Litchi, je pense, parce que ça j'aime beaucoup. Le restaurant Les Délices Veggie, si vous connaissez pas, allez-y, c'est place Jeanne d'Arc, c'est super.
La place Jeanne d'Arc à Metz.
La place Jeanne d'Arc à Metz en Moselle. Voilà, il faut toujours préciser.
Et c'est très bon, pour le coup, c'était vraiment délicieux.
Et donc, la boutique Délice Lamarque qui a accepté de nous faire des rabais pour toutes les personnes qui se pointeraient avec le fanzine ou qui diraient longue vie et prospérité aux vendeurs. J'espère que vous en avez profité. Là-bas, on peut acheter pas mal de trucs à la Mirabelle. C'est très sympathique. Et sinon, contrairement à ce que j'ai indiqué sur le numéro 2 de notre fanzine, le prochain podcast ne sera pas disponible dès le samedi 25 octobre pour parler de la saison 5 de Lower Decks. Ça sera plutôt le lundi 28 octobre, tout simplement, parce que je serai au Quai des Bulles à Saint-Malo. Donc voilà, ça sera le temps d'enregistrer. Et d'ailleurs, ça sera un spécial meuf, je pense, avec Marina. Ça te va?
Bien sûr. Dispo. Moi, je serai là.
Ok, très bien.
Est-ce que ça va être un podcast très long?
Non, pote.
Est-ce que je vais citer Game of Thrones?
Non, en vrai.
Ou le Cid.
Ou Goethe.
Ou Goethe en allemand.
En allemand.
Alors, vous avez passé à côté d'un truc, c'est que dans le
fanzine.
Cadran Pop magazine, le fanzine qu'on a publié en même temps que cet événement, et que si vous contactez Guigui, on peut vous le vendre à prix modique entre 100 et 150 euros le numéro. Marina, dans son article sur les maîtres du Haut-Château, Le maître du Haut-Château, avait fait un chapitre en entier en allemand, et il a fallu qu'on lui explique assez longuement que notre audience ne lisait pas forcément l'allemand. Et que ça pouvait être compliqué. Voilà, donc si vous êtes germanophobe.
Non, fun.
Adressez-vous à Marina. Si vous êtes germanophobe, adressez-vous à moi.
En tout cas, voilà, bah, je vous remercie vraiment tout le monde d'être venu. C'est vrai que c'est quand même un effort qui vous a été demandé de venir à Metz en Moselle pour la distance, pas pour le plaisir d'être dans la ville, parce que vous avez pu constater que c'est une très jolie ville. Voilà. Et donc, bah, j'espère vous revoir toutes et tous bah, au prochain événement qui se fera, je sais pas quand, mais en tout cas, on en fera, c'est sûr. Pas forcément à Metz, hein, mon grand désespoir. Pas forcément en Moselle non plus, mais en tout cas, on refera quelque chose. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
Ciao.
Salut. Thank you.